Attitude.
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi 18h30 avec Fred et Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Bon, le SA15 Mag Attitude, hein, c'est bien souvent deux hommes en studio, Christian et moi-même. Christian, bonsoir.
Salut Fred.
Comment vas-tu?
Bah écoute, très bien. À titre personnel, j'ai une semaine qui va s'annoncer chargée, mais on a hâte d'être à vendredi soir pour voir jouer le SA15 contre Nice.
Tout à fait, pour voir peut-être une victoire, hein, qui sait.
On l'espère la première, ouais.
Eh bien écoute, si tu veux bien, on va lancer le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et au sommaire ce soir, nous ne reviendrons pas, hein, bien sûr, sur le match des pros du SA15 ce week-end, puisqu'il n'y en avait pas, hein, tout simplement. Mais nous allons revenir sur les trois derniers matchs qui ont eu lieu depuis ce début de saison. Trois matchs qui font mal, hein, on va en parler un petit peu. Et en même temps, nous allons faire le tour un petit peu des recrues du SA15, des joueurs qu'on a pu voir se mettre en avant durant ces trois premiers matchs. Et puis, voir ceux qui ont été peut-être un petit peu en difficulté, qui ont du mal à s'adapter. Ensuite, il y a un résultat des jeunes. Nous vous donnerons le résultat des jeunes ainsi que le fil de la rencontre. On va voir, ça s'est plutôt bien passé. Et en fin d'émission, bien sûr, nous allons parler de ce match qui arrive très prochainement, puisque c'est vendredi soir. Ce sera au Stade Chanzy à 20h de mémoire, il me semble-t-il. Et ce sera face à Nice. Mais on peut tout de suite lancer le retour sur les trois derniers matchs.
Le SA15 Mag Attitude. Pour vivre rugby en Charente.
Christian, hein, comme on disait, hein, trois premiers matchs et trois premiers matchs qui ont été très compliqués malgré deux petites défaites, les deux premières, face à Tarbes à l'extérieur puis à domicile. Face à une équipe dijonnaise qui est venue crânement jouer sa chance. Le SA15, c'est un très mauvais début de saison, hein, Christian.
Oui, effectivement, trois défaites sur les trois premières journées, on ne s'attendait pas à ça. Il y avait forcément un déplacement compliqué à Massy qui était en Pro D2 il y a encore deux ans. Un déplacement, on va dire, chez l'une des valeurs sûres un peu de la nationale, de la Fédéralune, à savoir Tarbes, et la réception de Dijon qui s'apparentait quand même comme peut-être l'adversaire le moins costaud entre guillemets que le SA15 allait affronter cette saison. Donc on pouvait tabler, aller sur, si ça se passait mal, sur peut-être une victoire et deux défaites, si ça se passait bien, sur deux victoires, et si ça se passait excellemment bien, sur un sans faute. Et malheureusement, c'est le quatrième scénario qu'on n'avait pas envisagé, c'est-à-dire trois matchs, trois défaites. Et donc effectivement, alors qu'on se parle, le SA15 est dernier de National.
Un premier match à Tarbes où on a vu le SA15 pas très bien rentrer, hein, dans son match, mais finalement rapidement prendre le dessus sur une équipe tarbaise qui semblait débordée par le SA15. Et puis patatras, les 5-10 dernières minutes, ça a été deux essais pour Tarbes et une courte défaite certes, mais une défaite du SA15 à Tarbes. Un match qui est resté finalement, où le SA15 est peut-être resté là-dessus, hein, d'ailleurs frustré de ce match.
Moi, ce que je trouve le plus embêtant sur ce match, c'est qu'au final, ils n'ont pas réussi à tirer les leçons de Tarbes, parce qu'au final, une semaine plus tard contre Dijon, on a eu le même scénario, c'est-à-dire le SA15 qui menait, le SA15 qui perd des ballons en touche, qui perd des ballons sur des mêlées hyper importantes, et au final, on a Dijon qui marque deux essais vers la fin de match. Donc au final, oui, on n'a pas malheureusement, le SA15 n'a pas forcément retenu la leçon de Tarbes. On dit généralement qu'un averti en vaut deux, et malheureusement, il s'est passé le même scénario sur les deux matchs. Alors oui, effectivement, cette entrée à Tarbes, c'était un premier match. Il fallait un peu se jauger dans cette nouvelle division avec les différences qu'il y avait, notamment concernant l'arbitrage. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo, il n'y a pas de temps de jeu qui est arrêté, le jeu n'est pas arrêté lorsqu'il y a une décision, il n'y a pas de sirène, donc au final quand on est à 40, ça continue. Donc c'est toutes ces, et puis aussi on a un SA15 qui est relégué de Pro D2 et qui apparaît comme vraiment la grosse équipe de la poule avec Valence Romand. Et donc les équipes qui sont en face, elles sont motivées à aller jouer un relégué de Pro D2, parce que c'est pour eux, c'est un match de gala entre guillemets. Et toutes ces choses ont fait que ce premier galop d'essai du côté de Tarbes a malheureusement pas été concluant. Une défaite pratiquement à la dernière seconde, qui fait mal à la tête, parce que le perdre, c'est un fait, mais c'est vrai que le scénario est très compliqué pour le VSA 15, parce que sur les deux premiers matchs, honnêtement, ils étaient devant pratiquement à la 80e minute, et au lieu de faire 8 points, t'en fais que 2, et c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Ouais, puis d'autant plus que face à Dijon, c'était à domicile. C'était un match aussi où les spectateurs revenaient au Stade Chanzy, hein, puisqu'on l'année dernière, ça avait été assez frustrant, hein, finalement, pour les supporters, non seulement au niveau des résultats, mais aussi le fait de ne pas pouvoir venir supporter son équipe suite à la Covid. Et on s'attendait quand même à ce que le SA15 s'impose face à Dijon, qui avait été battu chez lui lors du premier match. Et effectivement, ça a été double frustration, hein. Tarbes, Dijon, deux matchs, deux frustrations. Et finalement, ouais, comme tu le disais, un scénario de match assez identique. Pour toi, Christian, de quoi ça vient ? Est-ce qu'il y a un excès de supériorité sur ces deux matchs, ou est-ce que c'est vraiment un manque d'adaptation à ce nouveau cran, hein, à ce nouveau niveau de championnat de national?
Déjà, tu faisais référence à Dijon. Il faut dire que Dijon est un rendez-vous manqué, parce que comme tu disais, les supporters revenaient, et puis même les joueurs jouaient devant du public, ce qui était plus le cas, et c'était à la fois frustrant pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. Deux défaites donc à la sirène, enfin en tout cas dans le temps additionnel, à quoi c'est dû? Je dirais plusieurs choses. Déjà, peut-être cette adaptation, le fait qu'il n'y a pas de sirène, donc peut-être que ça manque les repères, et puis forcément le SA15 est habitué quand même depuis plusieurs saisons à affronter pratiquement toujours les mêmes équipes, donc il faut un peu se réhabituer à jouer des équipes différentes. Parfois ça apporte des choses un peu nouvelles, et ça permet un peu de voir autre chose, mais il faut aussi un peu se régler par rapport à leur niveau et au nôtre. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être je sais pas si c'est ça, mais en tout cas peut-être la peur de gagner, parce que on rappelle que le SA15 a vécu une saison dernière très compliquée, où ils ont été relégués et où ils ont pratiquement été toute la saison dans la zone rouge. Et c'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de victoires, et peut-être que certains joueurs, peut-être que le staff y pensait, c'est-à-dire que quand on mène de très peu à la fin, on a à la fois peur de gagner, donc peut-être qu'on prend moins de risques, peut-être qu'on veut plus s'assurer, et puis surtout on a surtout la peur de perdre, c'est-à-dire que on sort d'une saison très compliquée sportivement, et on se dit je mène de trois points à la 80e, mais il suffit d'un essai pour les adversaires pour qu'on perde le match, et peut-être que ça a joué. Alors je dis pas que ça aurait été plus simple pour le SA15 d'être dans la peau du chasseur, c'est-à-dire d'avoir quelques points de retard avant la 80e, mais c'est vrai que là au final à la 80e, à chaque fois le SA15 était devant, c'était l'équipe qui finalement avait le plus à perdre, et ils se sont fait croquer en fin de match, donc différentes causes. Et puis aussi après l'équipe a beaucoup changé, même si on a quand même une colonne vertébrale qui est restée relativement similaire, il faut quand même s'acclimater. Les matchs amicaux rugby, c'est des matchs, mais il y a vraiment que la compétition qui peut parler, donc c'était les deux premiers matchs de la saison. C'est vrai que là, s'ils enchaînent sur 4-5 victoires, on s'en rappellera moins de ce début de saison raté.
D'ailleurs, tu faisais un lien, la peau du chasseur. Il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui arrive et qui n'était pas arrivé au SA15 depuis un petit moment, depuis la montée en Pro D2, finalement, c'est que cette équipe du SA15 n'était plus favorite. En fait, elle était à chaque fois outsider face aux équipes qui étaient réputées avec un palmarès plus grand. Donc, il faut aussi se réhabituer à un nouveau statut. Et en plus, quand on a la tête dans le seau, puisqu'on descend, donc c'est double peine finalement. On descend, donc un manque de confiance et un changement de statut qui passe de chasseur du chassé au chasseur, et chasseur chassé, quoi. Donc ouais, ça peut jouer aussi dans les têtes, cette différence.
Oui, bien sûr. Faut aussi dire que depuis la création du SA15, depuis la saison en Fédéral 3 en 2010, le club n'a fait que gagner pratiquement. Ouais. Donc, certes, il y a eu des passages difficiles en Pro D2 où ils ont assuré le maintien à 2-3 journées de la fin, mais le club n'avait connu qu'une ascension positive, que du positif, toujours des victoires, toujours des montées, et forcément, d'une part, ça apportait de la confiance, et deuxièmement, ça prouvait aussi que le SA15 avait de la réussite. Et là, les deux sont partis, la confiance est partie, la réussite est partie, et c'est vrai que je le disais après Tarbes, quand on monte dans une spirale négative, c'était très compliqué d'en sortir parce que il faut enclencher cette première victoire qui fait que d'ailleurs ça peut potentiellement se décamper, et encore pas toujours. Mais voilà, tant que le SK15 n'aura pas gagné cette première victoire, ils auront un peu cette épée de Damoclès sur la tête à se dire, on a perdu des matchs en fin de match qu'on était censé remporter entre guillemets, et on attend toujours cette première victoire. Et je pense que cette première victoire fera beaucoup de bien au SK15 lorsqu'elle arrivera.
Et donc il y a eu ce troisième match hein, qui a été bon, là le score était un peu plus large à Massy. Le SK15 a tenu une mi-temps, puisqu'à la mi-temps il y avait 9 partout. On a vu un SK15 finalement plutôt au niveau hein, de cette équipe de Massy. Et puis en seconde mi-temps, une équipe du SK15 qui semblait un peu plus puissante. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue sur le terrain. Mais par contre, qui collectivement était défaillante, a perdu énormément de ballons et a permis à cette équipe de Massy finalement de s'imposer sans briller, sans forcément dominer. Mais on a senti cette équipe de Massy collectivement plus au point.
Oui, et puis les Massicois finalement, ils se sont arrangé le boulot entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont marqué. Ils ont marqué un ou deux essais assez rapidement en deuxième mi-temps, ce qui fait qu'ils ont pris le score avec quand même quelques largeurs. Et ça a obligé le SK15 à courir derrière le score. Au final, on était un peu dans la situation inverse des deux premiers matchs, où c'est le SK15 qui était mené, on va dire, à la 60e, 70e. Il marque un essai par Evono. Je crois qu'ils reviennent à 10 points et malheureusement en fin de match il y a un carton jaune plus un essai massicois vers la 80e minute qui fait que le score est amplifié. Après c'est dommage, s'ils avaient pu remarquer une pénalité ou un essai après l'essai de Revolo, ça aurait peut-être pu un peu changer le mood. Je parlais tout à l'heure de chasser, ben là le SK15 aurait été chasseur et peut-être que finalement comme disait Pierre Salviac, les mouches auraient changé d'âme et que peut-être que le SK15 aurait pu renverser cette situation. Mais au final, ouais, ça fait 3 défaites, en plus une défaite sans bonus défensif, donc le SK15 est seulement 2 points après 3 matchs.
Forcément, hein, ils sont forcément derniers, enfin tout au moins dans les derniers, puisqu'ils ont simplement 2 points, et 2 points, parce que c'est que des défaites. Hein, donc pour l'instant, ils sont sur une spirale négative. Donc voilà, on va faire un point sur les arrivées et les départs. Il me vient forcément une idée en tête, hein, on l'entend, je suis pas le seul à le dire. Est-ce que certains départs cette année, je pense notamment à Quentin Vide, je pense également à Adrien Yestaran, Paul Belzon aussi qui est parti un petit peu au dernier moment, hein, tout comme Quentin Vide, ont pas été préjudiciables aussi au SA15 au niveau de la cohésion du groupe, parce que c'est quand même des joueurs qui étaient là depuis un moment et qui portaient un peu cette équipe et qui avaient une âme.
Après moi, en termes de départ,
il y a Léo Alamada
aussi. Des deux piliers géorgiens, Bukinava et Tevdora Julie, parce qu'on a vu finalement que cette première ligne, mis à part Olé Avei qui a fait les trois titularisations, au niveau des piliers, ça a tourné à tous les matchs. On a vu du Bofarant, on a vu du Elias El Ansari, on a vu du Odi Juili, on a vu aussi un ou deux autres géorgiens. On a quand même vu que le SK15 se cherchait au niveau de la première ligne. Déjà, ils étaient quand même assez en difficulté sur la mêlée, donc forcément, quand des joueurs donnent pas satisfaction entre guillemets, on en essaye d'autres. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette stabilité. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule sur la première ligne. Et pour moi, les départs quand même de Gokinava, qui n'avait pratiquement pas raté un match l'an dernier, de Tevdora Julie, qui était un petit jeune en début de saison, mais qui avait quand même progressé et passé plusieurs marches.
Il y a également Thibaut Berthaud qui est parti à Oyonnax.
Complètement.
Il y a Léo Alavatao.
Il y a Younes El Jaï qui fait qu'il ne peut pas renforcer l'équipe pour l'instant. En plus.
Il y a également Léo Alavatao qui, même s'il avait effectivement 36 ans à l'époque, puisqu'il en a 37 aujourd'hui, était un peu un papa hein, et un joueur solide, hein, mine de rien, en mêlée. Même s'il n'a pas été souvent là la dernière année, c'est quand même un joueur qui stabilisait la mêlée. Et c'est vrai, comme on dit, hein, c'est quand même 4 joueurs, 4 piliers qui partent, c'est dur à remplacer. Il y a les piliers, mais il y a également les talonneurs, puisqu'il y a German Kessler et Dim Schaeff qui partent.
Oui, juste pour finir sur les piliers, Fred, on a un pilier sud-africain qui va arriver.
Tout à fait. Oui.
Dans les prochaines semaines.
Kumbiraï, Michael Kumbiraï, donc pilier de 25 ans qui arrive des Sharks, donc d'Afrique du Sud.
C'était quand même un secteur à renforcer. Après, concernant le talon, on a forcément l'inamovible Olé Avei, qui au final se bonifie avec le temps, comme le bon vin. Oui. Et malheureusement, son remplaçant a connu quelques difficultés. Après, c'est aussi le temps de se mettre vraiment dedans. Et puis, c'est compliqué d'être remplaçant parce que, au final, on rentre dans un match en plus où le SA15 mène de pas beaucoup. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on entre dans une session quand même de stress parce que on est devant avec peu de points d'avance. Donc, on a plus à perdre qu'à gagner. Donc, peut-être que ça joue un peu dans le bras au moment de faire la touche.
Ouais. Et puis, son remplaçant, c'est Pachividar. Hein. Pachividar, il a 21 ans. Hein. Oui. Donc, 21 ans, c'est jeune hein, quand même pour jouer en national dans une nouvelle équipe, donc il faut aussi s'adapter et effectivement cette première ligne met du temps, même s'il y avait quand même du mieux en première ligne à Massy. Moi j'ai trouvé que voilà, ils ont fait quasiment jeu égal en mêlée, il y avait quand même du mieux. Mais espérons effectivement que ce pilier là sud-africain a été recruté hein, c'est un 3 hein, il va normalement stabiliser cette mêlée avec Gojis Navidze qui l'ancien lutteur géorgien qui vient normalement pour stabiliser cette mêlée, mais qui va avoir besoin, je pense, d'un temps d'adaptation au rugby en France, hein, tout simplement. C'est des joueurs qui viennent de l'étranger, c'est toujours compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Christian.
Oui, mais tout à fait d'accord. Hein,
au rayon des arrivées, on avait également Germain Burgo, qu'on a vu plutôt à son avantage, en troisième ligne, qui remplace, alors pas poste pour poste, mais pratiquement Paul Belzon, hein, puisque c'est à peu près le même profil de joueur. Ou quand t'invites, voilà, ça c'est un peu un mix des deux. Et il y a également un joueur qu'on n'a pas vu encore, hein, c'est Tska Dadze, troisième ligne, qui vient de Brive et qui est plutôt prometteur et qui devrait aussi faire du bien en troisième ligne. Hein, Christian, au niveau des arrivées, il y a Emmanuel Sobus qu'on n'a toujours pas vu puisqu'il est blessé, qui devrait revenir assez prochainement. À la mêlée, ça aussi, c'est un joueur d'expérience qui devrait faire beaucoup de bien.
À la mêlée, et au but en plus.
Et au but également, puisqu'effectivement, on a vu François Fontaine hein, buter lors des deux premiers matchs. Puis, obligatoirement, on a à nouveau fait buter Mathieu Hugal, qui est pas trop chaud pour ça. Et également Maxime Laforte qui est arrivé et qui a fait deux bons premiers matchs, mais qui s'est assez sévèrement blessé, je pense, lors du dernier match. On l'a vu sortir. Je sais absolument pas ce qu'il en est aujourd'hui de cette blessure. On espère qu'il reviendra assez rapidement maintenant. Et au niveau des arrivées, il y avait également le jeune Iñaki Ayarza, donc arrivé de Bayonne, centre, 21 ans, qui a fait un super match de préparation, moi j'ai trouvé, et qui malheureusement s'est aussi un peu blessé, revenu avec les espoirs, a fait un très très bon match à l'UCS, et qui je pense au centre va être une belle satisfaction, hein, Christian. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce joueur-là a de l'avenir.
Déjà, il a gagné avec la réserve, donc il arrivera peut-être avec un capital confiance positif. Il va peut-être un peu régénérer l'équipe en termes de confiance. C'est vrai que par rapport, on en parlera tout à l'heure, mais les espoirs font un très bon début de saison. Il y a tout n'est pas non plus négatif dans la maison SA15. Ailleurs, ça fait partie forcément des recrues, donc on a hâte de le voir évoluer un peu sous les couleurs du SA15, forcément. En tout cas, en équipe première.
Il y a également Baptiste Boucher qui est arrivé en espoir, qui vient de La Rochelle, 20 ans, à la mêlée, et qui, je pense, intégrera assez rapidement cette équipe aussi première, si toutefois il y avait des blessés, parce qu'il a un bon petit niveau déjà. Très bien, mais écoute, on en a terminé avec ce tour là de ce début de saison du SA15, on va passer au résultat des jeunes.
Le SA15 Magattitude, le résultat des jeunes.
Christian, les jeunes étaient sur le pré, on le rappelle à chaque fois. Le SA15, ce n'est pas seulement les pros, c'est aussi des espoirs et c'est aussi une école de rugby. Et sur le pré, il y avait les espoirs qui jouaient leur deuxième match. Et c'était un match qui était attendu parce que je pense que ça va être face à un gros de cette poule. C'est Nevers.
Avant de parler de ce match, on peut aussi rapidement mentionner qu'il y avait des portes ouvertes de l'association du SA15 samedi à Chanzy avec plusieurs stands qui étaient organisés, avec notamment l'après-midi de la venue de Bernard Laporte. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un événement. Et après, concernant la réserve, oui, c'était contre Nevers, donc forcément une grosse équipe.
Alors, c'est pas la réserve, c'est les espoirs.
Les espoirs, pardon, oui.
C'est pas grave. Espoirs.
Victoire donc des espoirs 12-0. Et il y avait 3-0 à la mi-temps, hein, puisque c'est Martin Drevet qui, d'une pénalité, ouvre le score. Très belle prestation des mêlées, avec malheureusement une pénalité pour Nevers, mais que Nevers va rater. Donc le score est toujours de 3-0 et ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. en changement, en seconde mi-temps, quelques changements, avec notamment l'entrée de Beaufarance en première ligne. Et c'est Martin Drevet qui met une deuxième pénalité, donc on est à 6-0. Troisième pénalité pour le SA15, 9-0, avec du coup ensuite le changement de Loïc Comprare qui remplace Boucher, t'en parlais tout à l'heure Fred, en demi-mêlée. Et finalement, c'est Martin Drevet qui met une quatrième pénalité, on est à 12-0, et ce sera le score final, victoire 12-0 du SA15 qui, après sa victoire à l'UCS, enchaîne un second succès chez les Espoirs.
Ouais, et face à une belle équipe de Nevers qui sera, à mon avis, l'une des équipes costauds de cette poule. Donc les Espoirs commencent un petit peu comme l'année dernière, tambour battant, avec que des victoires, et ça fait vraiment plaisir. Une belle équipe. Très bien, Christian. Hein, on a terminé avec les résultats des jeunes. On va pouvoir parler du match qui arrive prochainement. Ça va être face à Nice.
Le SA15, Magattitude, le prochain match.
Il nous reste, 4 minutes environ pour parler de ce match qui arrive vendredi soir face à Nice. Nice qui s'est rassuré après deux défaites, deux contre-performances un petit peu à l'image du SA15, mais qui s'est rassuré à domicile et en plus face à Albi. Albi qui va faire partie des grosses équipes de ce national. Qu'attendre de ce match, Christian? Et alors bien sûr, le SA15 a largement ses chances face à cette équipe de Nice, mais comment vois-tu ce match?
Ah, déjà c'est un match hyper important parce que je parlais de première victoire tout à l'heure. Il faudrait que cette première victoire arrive le plus rapidement possible. Et puis je me rappelle de la semaine dernière, il y avait un certain Fred qui avait annoncé que le SA15 gagnerait ses 3 ou 4 prochains matchs. Donc forcément c'est un match hyper important à gagner. Nice a connu un peu la même situation que le SA15, c'est-à-dire qu'ils ont démarré par je crois 2 défaites et puis ils ont réussi quand même à inverser la situation sur le 3e match. Donc ils vont arriver avec une victoire de plus que le SA15. Après c'est quand même un choc au sommet entre quand même deux équipes qui étaient promises au top 6. Donc peut-être que dans l'adversité positive devant un Chanzy qui retrouvera son mode pro des deux en jouant du coup le vendredi soir, peut-être que le SA15 va réussir à se sublimer et qu'ils vont peut-être remporter ce match. Parfois peut-être qu'on est un peu moins entre guillemets motivé contre, même si je pense qu'on est quand même toujours motivé quand on rentre sur un terrain, mais peut-être qu'on est un peu moins attentif ou un peu moins sur nos gardes contre Tarbes ou contre Dijon. Là contre Nice, voilà, on sait très bien que il faudra être à 100% parce que c'est une équipe qui l'an passé a raté l'accession en pro des deux n'a rien battu par Narbonne. Donc on sait très bien qu'il faudra être à 100% si on veut rivaliser, et je pense que le SA15 se refuse à un deuxième rendez-vous manqué devant son public. Donc nous les joueurs, les supporters, les dirigeants espèrent forcément débloquer le compteur contre Nice.
Ouais, et puis cette équipe de Nice, c'est sur le papier la plus grosse équipe quand on regarde le recrutement. Donc effectivement, le SA15 va plus être dans la peau du chasseur, mais va être dans la peau du chassé. Et je pense que c'est la meilleure position possible. Ça peut être, sincèrement, je pense, le déclic. Hein. Si toutefois il y avait une victoire face à Nice et lancer réellement la saison du SA15 et les faire basculer dans le positif, Christian.
Ouais, tout à fait. Surtout que derrière, en plus, ils enchaînent avec le derby à Cognac. Donc il y a deux matchs entre guillemets en jeu, même si on sait que tous les matchs sont importants, mais recevoir Nice qui est l'indicateur de la poule, et après faire ce derby qui va à mon avis amener énormément de supporters à Cognac, c'est vraiment deux matchs peut-être qui sont cochés particulièrement sur un calendrier lorsque celui-ci sort. Donc deux matchs importants. Vu la situation comptable du SA15, il serait de bon ton de gagner les deux, déjà comptablement pour remonter en milieu de tableau, parce que le classement fait le moral. Donc en étant dernier, on a moins de moral qu'en étant en milieu de tableau. Et puis surtout, gagner, d'une part, ça apporte de la confiance, ça valide ce qu'on travaille dans la semaine. Il y aura de plus en plus de matchs joués, donc les automatismes entre anciens et nouveaux vont se faire au fur et à mesure. Il y aura plus de liens, plus de connexions entre les différents joueurs. Voilà, on espère que le SA15 montera en puissance, et rien de mieux pour monter en puissance que de l'emporter vendredi contre Nice.
Tout à fait, cette victoire contre Nice est primordiale pour le SA15, et puis comme tu le disais, l'UCS derrière, ça va être aussi très très chaud et très important, notamment pour la suprématie des Charentes, finalement montrer que le SA15 est toujours le club phare. Bien sûr, on sort la Rochelle, qui est sur une autre planète de cette suprématie. Là, c'est une suprématie des divisions en dessous. Mais ça va passer obligatoirement par une victoire face à Nice. Eh bien, écoute, merci Christian. Hein, cette émission se termine. On vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, à la même heure. On espère vous compter enfin une victoire du SA15. On vous souhaite nombreux, surtout vendredi soir, aller supporter l'équipe du SA15 face à Nice. Ça va être très certainement un gros match. Vous allez voir de très beaux joueurs. Nice est une très belle équipe également. Et puis le SA15 a besoin de vos encouragements. On vous dit au revoir à tous. Bon match vendredi. Salut.
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15 le lundi 18h30 avec Fred et Christian.